se retrouve, comme tous les mardis après-midi, pour une nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre. Et on retrouve avec plaisir Roselyne, sous son casque, pas colonial.
Bonjour
du tout, du
tous.
Tout. Il ne faut pas dire à Roselyne qu'elle a un casque colonial, elle a un casque radio, surtout. Ouais. À Bib non plus, il ne faut pas lui parler de casque colonial. Lui qui a passé sa petite enfance dans les colonies de la France. Bonjour à Bib, merci d'être là. Voilà, on va faire un petit tour comme d'habitude. Alors, je vais commencer par un article que Roselyne m'a envoyé ce matin, qui était une lettre adressée par un écrivain ivoirien, dont j'avoue je ne connaissais pas le nom, peut-être toi non plus, qui, très gentiment, d'ailleurs dans un mouvement de compassion ou d'humanité, disait, dans le sens, il faut arrêter la guerre en Ukraine, et il disait à Zelensky, bon, il faut aller négocier, hein, maintenant vous devriez négocier, parce qu'il faut que ça s'arrête. Hein, il faut... Et d'une certaine façon, il avait raison, puisque vous savez, j'en parlerai ou je le dis tout de suite, vous savez qu'il y a eu une attaque de drones sur le fameux pont de Kerch, qui rallie les deux côtés de la mer d'Azov, et qu'une petite fille est morte dans la voiture où ses deux parents sont morts aujourd'hui. Voilà. Bon, il y a une orpheline. Merci les drones ukrainiens. Hein, c'est ça, la guerre quotidienne. On ne le dit pas assez. Donc, c'est un bon sentiment de la part de ce monsieur de dire il faudrait commencer à négocier. Parce qu'on sent bien que, et il confirmait, militairement, vous n'arrivez pas. Hein, et donc, il faudrait s'en sortir. Bon. Il se trouve que c'est la réponse que j'ai faite brièvement à Roselyne. Je lui ai dit, mais en fait, c'est trop tard. Alors, pourquoi c'est trop tard? Parce que Zelensky, c'est fini. Vous allez dire, il m'annonce. Oui, Zelensky, c'est fini. À telle enseigne, c'est tellement fini que les photos qui ont circulé du sommet de Vilnius, où on voyait ces messieurs-dames en robe du soir en train de papoter, c'était des mondanités guerrières, entre guillemets, c'était des mondanités. Mais cette photo qui a circulé, où on voit Zelensky tout seul dans sa tenue de comédien, dans son uniforme, son rôle, et il sort jamais de scène, en fait. Et en fait, il est tout seul. Mais le fait qu'une, réfléchissez, une photo comme ça qui sort dans la presse internationale, ça veut dire qu'on l'a laissé sortir. Parce que les photographes qui étaient à la réception au cocktail de la soirée de l'OTAN, c'est des photographes qui sont triés sur le volet. C'est-à-dire que si on a autorisé cette photo, c'est qu'il fallait qu'elle sorte pour montrer que c'était fini. Hein? Alors, il l'a certainement pas très bien pris. Il avait peut-être pas eu son préavis. Je ne sais pas de combien est le délai de préavis dans les licenciements de chefs d'État. Si c'est un mois, deux mois, c'est comme les cadres supérieurs, trois mois, j'en sais rien. Mais il est mort. Il est mort politiquement. Il est mort politiquement parce que, de toute façon, tout ce qu'on a voulu lui faire faire, il l'a fait, mais ça n'a pas marché. Et puis, militairement, bien qu'ils reçoivent des milliards de matériel, d'aide physique, en munitions, etc., et de l'argent, ça n'a pas suffi. Et donc, effectivement, il faut trouver autre chose. Et c'est tellement vrai, ce message est tellement rapidement passé dans les oreilles d'un certain nombre d'Ukrainiens que c'était hier, je crois, ou avant-hier, donc vous voyez, tout de suite après le sommet de Vilnius, la fameuse Yulia Tymoshenko, alors rappelez-vous, à l'espèce de caraque blonde avec ses tresses et tout, qui était un des maîtres de la révolution orange de 2004, qui a continué ensuite sa carrière politique après un passage par l'état de prison. Vous savez, c'est comme Monopoly, on fait des mauvaises affaires, on passe par l'état de prison, mais on se représente quand même au présidentiel. C'est ça, c'est une espèce de jeu du pouvoir organisé par l'extérieur. Donc, Madame Yulia Tymoshenko, qui d'ailleurs s'est présentée au présidentiel de 2019 contre que Zelensky a remporté, était arrivée quatrième avec 5% des voix et tout. Elle n'avait pas d'espoir, mais elle était toujours dans la course. Elle avait fini sa peine de prison pour des trafics sur le gaz russe qui passe à travers le territoire ukrainien. Et donc, elle est toujours là. Et elle s'est d'emblée manifestée en disant « il faut absolument changer de politique. Et je me présente, je suis la femme de la situation ». Vous allez voir, comme j'ai tellement réussi mon affaire du coup d'État orange, etc., etc., vous me connaissez. Alors, ça veut dire aux Occidentaux que celle est aussi pourrie que les autres, elle est aussi corruptible que les autres. Donc, à la limite, c'est une bonne carte pour l'Occident qui choisit des gens faiblards, des gens qui ne peuvent pas se défendre tout seuls, puisque leur armature, c'est le vice, la drogue, le trafic d'influence, etc. Et donc, effectivement, elle est un candidat présentable du point de vue occidental, c'est-à-dire c'est un voyou qui remplace un autre. Dans le même ordre d'idées, elle n'est pas la seule, puisque tout de suite après, l'ambassadeur d'Ukraine à Londres, qui est un ancien ministre de Zelensky, qui est parti il n'y a pas si longtemps, a dit, et il a fait écho à un propos du ministre de la Défense anglais, M. Wallace, il a dit effectivement, il faut quand même aller vers une négociation. Sous-entendu, je sais de quoi je parle. J'étais il y a encore 6 mois ministre chez Zelensky. Je comprends bien que ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Mais je suis là. Je fais don de ma personne. Comme ils sont gentils, tous ces braves gens. Et puis, dans la presse russe, on commente un certain nombre de noms de gens qui pourraient aussi contribuer à cette opération. Donc, un des oligarques auquel je me suis intéressé à l'époque, qui s'appelle M. Pinchouk, qui est un monsieur qui a mis de l'argent un peu partout, qui est un des mieux placés dans les cercles de pensée, si on ose dire, occidentaux. Pas trop visiblement pourri, puis très occidentalo-présentable, c'est-à-dire s'intéressant à la culture, sponsorisant les arts, aidant alors sa femme, aidant les auteurs d'IVG, etc. Enfin, il est tout à fait occidentalo-compatible. Hein. Et donc, lui, il est déjà aussi derrière sur là, non pas pour devenir chef de l'État ou ministre, mais pour dire « je serai là ». Je serai là au cas où on change d'équipe. Hein. Il doit être quelque part. Alors, il y a longtemps qu'il ne vit plus à Kiev, il vit à Londres. Hein. Il est là où il va, où il a une villa à Chypre. Enfin, ça, c'est tout à fait possible. Je ne veux pas le savoir, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais voilà. Donc, il a suffi. Donc, le sommet de Vilnius s'achève la semaine dernière et on a déjà les candidats qui affluent pour remplacer Zelensky. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris l'image dont je vous parlais, que vous avez sans doute vue. C'était sa sanction. C'est terminé. Licenciement prononcé. Alors, on a beaucoup glosé en disant qu'au passage, Biden a quand même dit que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, on verrait plus tard. Et il a même ajouté il faudrait qu'il n'y ait plus la guerre. Donc, c'est déjà le fait que... De toute façon, on va maintenant. Mais ce n'est pas aller plus loin que ça. Et tout le monde s'est aligné là-dessus. Au passage, quand même, on a encore réenvoyé de l'argent. Parce qu'il en a besoin, ce monsieur, ce gouvernement. On va réenvoyer des armes, enfin, tout ça, vous l'avez suivi. Alors, au point de vue envoi de l'argent, je veux quand même m'arrêter sur un phénomène qui a été peu médiatisé, c'est-à-dire que l'avenir des finances de l'Ukraine, parce qu'il y aura quelque chose, comme dirait Poutine, il y aura quelque part un morceau de terrain entre la mer Noire et la vallée du Dniepr et je ne sais où, et la Biélorussie, qui s'appellera peut-être Ukraine dans 6 mois, dans un an, qui le sait. Mais il faudra bien que ce pays-là, ce nouveau pays qui sera tracé sur des nouvelles frontières, ait un gouvernement avec un budget, des moyens de reconstruction, d'installation, de faire son travail de gouvernement. Bon. Et cette situation est déjà prévue, quel que soit le périmètre de la future frontière. Et savez-vous qui est chargé des finances du nouveau gouvernement ukrainien ? À la mode post-conflit, c'est le fonds d'investissement qui s'appelle BlackRock. Vous n'avez jamais entendu parler de ça, hein ? Donc c'est le plus gros fonds de placement mondial. Il faut savoir que le nombre de dizaines de à peu près 10 000 milliards de dollars sont gérés par BlackRock. 10 000 milliards de dollars, c'est le budget de le PIB de la France plus le PIB de l'Allemagne. Rendez-vous compte de l'énorme puissance financière, hein ? Le PIB de la France plus le PIB de l'Allemagne. C'est énorme. C'est-à-dire c'est une puissance quasiment incontournable. Et quand ce monsieur, enfin ce BlackRock, se pose candidat pour devenir le gérant du futur État ukrainien, effectivement, il sait que c'est une très bonne affaire parce qu'il va y avoir de l'argent qui va arriver pour la reconstruction, des crédits de ceci, des crédits de cela. Il y a beaucoup de bénéfices à faire. Et puis surtout, il va être au cœur du partage des dépouilles. Qu'est-ce que ça veut dire partager les dépouilles ? Hein, ça s'appelle en anglais, on appelle ça le spoil system. Hein. Partager les dépouilles, ça veut dire que cette Ukraine qui ne fonctionne plus, qui est en partie détruite et qui n'est pas gérée du tout par l'équipe actuelle qui se préoccupe que de son conflit, il va falloir se répartir les morceaux. Alors beaucoup est déjà parti. On en avait parlé, j'en avais parlé déjà pour les meilleures terres agricoles qui ont été rachetées par qui par Monsanto, qui par Cargill, qui par Bunge, etc. Et il y a encore des petits morceaux du trésor ukrainien à répartir. Qui répartira ? Ce ne sera pas un gouvernement élu par les Ukrainiens ou les Ukrainiennes, ceux qui seront encore sur le territoire de ce pays-là. Ce sera de l'argent et des biens qui seront répartis par BlackRock. Vous avez compris ? Ça veut dire que...
BlackRock,
c'est BlackRock, le chef de... C'est le banquier, c'est le ministre des Finances de l'Ukraine plus 2, comme on dirait, qui sera en place dans je ne sais pas quand, ça, personne ne peut encore le dire, mais tout ça est prévu. C'est-à-dire, n'ayez aucune illusion, il n'y aura pas un vote démocratique d'une population libérée de la guerre, il y a enfin la guerre, on vote un gouvernement nouveau et on prend nos affaires en main. Ça, c'est terminé. Il n'y aura pas de reprise des affaires en main par les Ukrainiens, pour ceux qui restent encore sur le territoire. territoire. C'est les États-Unis, c'est BlackRock, c'est la finance internationale qui prendra les affaires en main et qui aura réparti ou qui répartira ce qui restera de la richesse ukrainienne. Il y a encore effectivement des mines, etc. Le gros d'ailleurs est plutôt du côté russe. On sait, mines de fer, mines de charbon. Une partie des excellentes terres agricoles est déjà sur le territoire des nouvelles républiques russes. Donc il ne reste pas grand-chose. Et puis le reste, lui, c'est Monsanto et les autres. Mais ce qui restera encore à répartir, les restes de la puissance industrielle réelle de l'Ukraine en 1991, il fallait voir. Rendez-vous compte qu'en 1991, en gros, quand l'Ukraine devient indépendante de l'URSS, l'économie de l'Ukraine, c'est à peu près aussi puissant que l'économie française. C'est-à-dire, l'économie, c'est la République socialiste la plus avancée. On sait y faire à peu près de tout, de la métallurgie, de la chimie, d'excellentes terres agricoles, etc. C'est un pays très, très... Bon, maintenant, c'est le petit dernier de la classe. Hein. Et c'est pas la guerre qui l'a détruit, c'est détruit tout seul, bien avant. Donc voilà un autre avenir que suit, enfin, dont on ne veut pas nous parler. Alors bien entendu, c'est pas les journalistes des grands médias qui vont nous parler de cet avenir-là. Mais cet avenir-là, il est déjà prêt. Et à la limite, que derrière BlackRock, il y ait Madame Timoshenko ou l'ambassadeur d'Ukraine. C'est un détail. On a changé le casting, on a mis un nouveau comédien sur la scène. Mais au fond, toutes les affaires d'argent sont déjà réglées. Il faut savoir aussi que s'il y a des prêts, si imaginons que le FMI dise « cette nouvelle Ukraine, je vais faire un geste pour elle », ça ira directement dans les caisses de BlackRock. Parce que le FMI ne va pas donner de l'argent à Mme Timoshenko comme ça. Alors, en plus, c'est un voyou, donc ça ne serait pas intéressant. Donc on a affaire à un pouvoir qui est le pouvoir de la finance internationale sur un pays qui est en cours de destruction et dont une partie de la population est partie. Voilà. C'est ça la réalité crue. Alors, moi, je me désole qu'un gouvernement comme celui de la République française en soit encore à croire que ce n'est pas ça la réalité. Ils savent. Donc le jeu, ça consiste à mentir. Et mentir pourquoi ? Mentir pour dire « je suis le meilleur élève de la classe Biden ». Je vois que ça. Quel est l'avantage pour la France et ses 66 millions d'habitants que M. Macron tienne les positions les plus irréalistes, puisqu'au fond, il sait très bien, les services de renseignement, ça existe, la diplomatie française, ça existe, il sait très bien la réalité de la situation. Et chaque fois, il bluffe en peignant le contraire de la vérité. Mais ça se paiera très très cher, parce qu'on dira, vous avez dit ça. Qui aura confiance dans la parole de M. Macron ? Ben personne, plus personne. Alors déjà, du côté des électeurs français, c'était les dégâts étaient déjà faits, mais sur le plan international, c'est bien pire encore. Il passera pour le chef d'État qui, jusqu'au bout, a fait prendre des vessies pour des lanternes, et qui n'est pas fiable. Alors, quel avenir ça lui donnera en politique, je ne sais pas. Mais ça nous regarde en tant que citoyens français pour la suite des opérations. Bien. Ça, c'était pour faire un petit tour. Alors, je reste sur l'Ukraine, puisque j'y étais, pour parler de l'événement qui a eu lieu hier, parce que c'est un événement important, qui est la rupture, la suspension, plutôt pour être très précis, par la Russie, de l'accord sur les céréales. Alors on le voyait venir depuis assez longtemps, puisqu'il y avait deux parties dans l'accord d'exportation des céréales. Il y avait l'exportation des céréales ukrainiennes et l'exportation aussi des céréales russes. Parce que sur les mêmes terres, à quelques kilomètres près, les mêmes terres de la même qualité, la Russie produit beaucoup, à telle enseigne qu'aujourd'hui, la Russie est le premier exportateur mondial de blé. Parce qu'elle n'en produit pas que dans les républiques du Donbass. Bon. Cette partie de l'accord n'a pas été respectée. C'est-à-dire que la Russie a, depuis le début, accepté que, sous protection de la Turquie, les bateaux chargés de céréales ukrainiennes dans les ports ukrainiens puissent aller au marché international. La demande est en fait de dire qu'il faut que les pays pauvres qui seraient privés de blé si jamais ces exportations n'avaient pas lieu n'en soient plus privés. Alors, on est déjà beaucoup revenu là-dessus. Ça avait été magnifiquement démontré par Nathalie Yambe dans une fameuse vidéo et tout. C'est confirmé, ça a toujours été confirmé, c'est-à-dire que la très grande majorité du blé ukrainien qui a quitté les ports ukrainiens avec la bénédiction de la Russie et sous la surveillance de la Turquie, qui est le garant de cet accord et qui surveille le passage des bateaux chargés en Ukraine par le détroit par le Bosphore. Bon, tout ça a été su, donc il n'y avait pas de blé ukrainien, pas de blé russe qui partait. Mais ce blé ukrainien, où allait-il ? Très majoritairement dans des pays riches et développés, y compris chez des producteurs de blé comme la France. Et donc, les gens qui disaient qu'il fallait que ce blé arrive aux gens qui allaient mourir de faim en Afrique, ont perdu leur temps.
5%.
Mais oui, c'est exactement. Ils ont perdu leur temps. Alors l'hypocrisie avait été déjà dénoncée par la Russie, qui avait dit c'est pas possible, ça y va pas, qui avait même proposé de dire moi je vais livrer du blé gratuitement à ces pays-là s'ils en ont besoin. Mais comme on ne laissait pas passer les bateaux de la Russie, ça n'avait pas lieu. Ouais. Au passage, la Russie, c'était dans l'accord, avait dit « Moi, je suis aussi vendeur d'engrais sur le marché mondial. » Et ces engrais ne partaient pas non plus. Hein. Quand en plus, au cours des derniers événements, le gazoduc qui apportait donc de l'ammoniac, base matière première de fabricants d'engrais pour d'autres pays, donc depuis la Russie profonde jusqu'au port d'Odessa, a été plastiqué par l'armée ukrainienne, la Russie a tiré les conclusions qu'effectivement l'accord ne tenait pas, l'accord était unilatéral. Alors pourquoi il a été suspendu hier ? Parce que la date était prévue de revoir la position. Et puis ce qui s'est passé, et sur le quoi il faut s'arrêter, c'est que la position de la Turquie, donc qui était le garant de l'accord, qui surveillait les convois, qui s'assurait qu'ils étaient bien passés, etc., a été quand même un peu mise en doute. Le sérieux de la Turquie, si j'ose dire, a été mis en doute la semaine dernière, puisque après avoir beaucoup dansé d'un pied sur l'autre, M. Erdogan, comme il fait toujours, a fini par tomber du côté de l'OTAN pour dire d'accord pour que la Suède rentre dans l'OTAN. C'est ce qu'on attendait de lui. Il avait donné un autre signe, il avait renvoyé les prisonniers d'Azov qui s'étaient engagés à garder sur le sol turc, qui les avait renvoyés en Ukraine pour qu'ils puissent reprendre le combat contre l'armée russe. Enfin, tout ça faisait beaucoup. La Russie disait Erdogan, ça commence à bien faire. Et donc là, la sanction est très claire. Le rôle de garant de M. Erdogan, on ne le prend plus au sérieux. C'est tout. Alors il va réfléchir, parce que comme il est toujours entre deux eaux, il va réfléchir parce que les conséquences peuvent être importantes pour lui. Parce qu'en même temps, il dit qu'il est intéressé par les BRICS, il dit qu'il est intéressé par l'Organisation de coopération de Shanghai, mais comme les États-Unis savent le manipuler eux aussi, quitte à de temps en temps faire un coup d'État contre lui, ça c'est un détail, mais les États-Unis savent le manipuler. Ils lui ont dit « Ah, mais on va te soutenir pour ta rentrée dans l'Union européenne.
Oh, » oui.
Et l'Union européenne, comme elle obéit très sagement à tout ce que disent les États-Unis, elle a dit « Ah ben oui, on va le faire rentrer dans l'Union européenne. » Alors il faut savoir que la demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, je n'ai pas vérifié là, mais ça fait peut-être 25 ans que le dépôt a été fait. Alors on est passé par des phases de négociations, puis les négociations se sont arrêtées parce qu'au fond, ni d'un côté, ni de l'autre, on avait envie de rentrer, que la Turquie soit dans l'Union européenne. Je rappelle en particulier qu'un certain Nicolas Sarkozy était furieusement opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ouais. Et il n'était certainement pas le seul des chefs d'État européens à être dans ce cas. Donc M. Erdogan, là, est un peu placé, il est, comme on dirait vulgairement, entre deux chaises. Hein. C'est-à-dire qu'à force de faire des gestes pour montrer qu'il est bien avec l'Occident sans complètement fâcher la Russie, il y a un moment où tu tombes d'un côté ou de l'autre. Alors là, je ne sais pas encore à quelle contorsion il va se livrer pour arriver à faire croire qu'il est encore ami avec les Iraniens, avec les Russes, avec les Chinois, et puis rentrer dans l'Union européenne. Ça, alors ça clarifierait les choses. Je ne suis pas sûr que dans l'Union européenne on l'accepte les bras ouverts, hein, parce qu'on n'a pas...
Je voulais ajouter
il
voulait rencontrer Bachar al-Assad, mais Bachar al-Assad dit tant que tu ne quittes pas le territoire syrien,
je n'ai pas de leçon à recevoir de toi, tu es sur mon territoire,
ils le connaissent bien,
mais bien sûr, tout à fait, ouais. Donc effectivement la parole, enfin j'allais dire c'est presque excessif, mais non c'est vrai, la parole d'Erdogan ne vaut pas plus cher que la parole d'un président des États-Unis.
Tout le monde le connaît, hein.
Ça ne vaut rien, donc à louvoyer d'un camp à l'autre, à être l'ami ou contre les uns et les autres, on finit par plus savoir quelle est la position et on s'affaiblit. Alors il n'est peut-être pas encore suffisamment affaibli au plan intérieur, encore qu'il n'ait pas triomphé aux dernières présidentielles, mais à force, 52-48, c'était pas énorme. Non. Et de toute façon, là, maintenant, il est face à des enjeux et à des choix. Soit tu tombes carrément du côté occident, soit tu es avec les autres. Mais c'est plus possible de jouer sur les deux camps à la fois tout le temps. Donc voilà, bon courage Monsieur Erdogan, essayez de tenir parole, essayez de ne pas vous moquer de vos électeurs et surtout de vos interlocuteurs internationaux.
Je pense que dans sa personnalité, il ne changera jamais.
C'est possible, que le personnage soit comme ça et qu'il n'y ait rien à en attendre.
Il a toujours été comme ça. Hein.
Donc l'ambiguïté, voilà, donc c'est, même si la Turquie en souffre, ben c'est aux Turcs effectivement de régler le problème. Hein. Mais je crois que maintenant, côté russe, on lui dira, écoute, ça va bien, hein. On t'a fait confiance, on a joué le jeu, tu n'as pas joué le jeu, maintenant on n'a plus rien à faire.
Même du côté iranien aussi.
Tout à fait, pareil, tout à fait. Alors il faut savoir quand même, et ça il faut qu'il y réfléchisse, c'est que la Turquie n'a pas d'énergie. Tout le gaz qu'elle utilise est du gaz russe. Les centrales nucléaires qui sont en construction sur le territoire turc sont russes, etc. Et donc, quand même, il va être obligé de réfléchir sérieusement.
Et surtout, ça passe par l'Irak. Ça Tout va à passer fait. Par l'Irak, la Syrie.
La Syrie, voilà.
Alors, ben, ça va jouer. Là, il y a un grand problème.
Voilà. Donc là, c'est un dossier qui s'ouvre, avec qui devient cru, parce que maintenant, il ne pourra plus trop l'affaire du... L'accord sur les céréales est un révélateur très important. Il pourra plutôt jouer l'ambiguïté, je suis pour, je suis contre, je suis avec, je suis contre, etc. Cette phase-là de la politique d'Erdogan, à mon avis, est terminée, parce que d'un côté comme de l'autre, on sait à qui on a affaire. Et je pense, je ne doute pas un instant qu'à l'occasion, s'il lui téléphone, Vladimir Poutine lui dise « Écoute, mon petit, ça commence à suffire ». Avec beaucoup d'égards pour le personnage, bien entendu, mais on sait qu'ils en sont tout à fait capables. C'était ça que je voulais dire. Bon, c'est une des suites donc, du sommet de Vilnius, toute une série de suites. Donc, je résume, l'Ukraine n'est pas prête de rentrer dans l'OTAN, quelle que soit la forme de l'Ukraine qui reste. Les membres de l'OTAN sont prêts à encore beaucoup envoyer d'argent et d'armement. Mais ce qui s'est passé quand même, c'est que dans l'OTAN, il y a des gens qui sont très chauds, à l'exemple de la République française, ou plutôt de son président. Puis il y a des gens qui sont un peu réservés, qui traînent un peu les pieds, qui voudraient bien que ci et ça, etc. Et en fait, ce qui est en train de se passer, on a une espèce de mutation, c'est-à-dire que quand il y a des réunions de l'OTAN, il y a le groupe des partisans du G7, des membres du G7, qui ont une politique qui est la politique des États-Unis, la politique plus dure, jusqu'au boutiste. Et puis, il y a le reste des Européens qui sont considérés par l'Allemagne et par la France comme des seconds couteaux, qui suit plus ou moins. C'est-à-dire qu'on a la poursuite de l'éclatement de l'Union européenne du fait de la politique des États-Unis, qui se moque absolument de l'Union européenne dès l'instant où elle n'est pas soumise à leur
poste. Ils l'utilisent.
Tout à fait. Il faut ajouter à ça, dernière donnée de la situation, que face à cette évolution prévisible de la situation en Ukraine, donc évolution vers un petit État avec une équipe libérale, en fait, n'étant pas indépendante des banques et des fonds de pension américains, il y a un pays qui manifeste des appétits très concrets, et ce n'est pas des appétits de pouvoir ou de gloriole, c'est l'Allemagne, qui se dit que maintenant, s'il y a des morceaux de l'économie ukrainienne à racheter, c'est le moment. C'est le moment, hein, parce que là, on va pouvoir tout acheter, quitte à négocier à travers BlackRock. Et donc, on retrouve... Alors, c'est très, très particulier comme attitude. Ça veut dire qu'on retrouve une Allemagne qui est l'Allemagne avec les yeux tournés à l'Est, l'Allemagne qu'on a toujours connue, hein, qui a effectivement s'est tournée à l'Est de la façon que l'on connaît à partir du mois de juin 1941, et qui se dit là, il y a un morceau à prendre, c'est mûr, il y a des pouilles à partager. Ah oui, donc on a potentiellement d'ailleurs un conflit d'intérêts entre peut-être certaines banques des États-Unis, des banques allemandes, des grosses industries allemandes qui vendent de l'armement, etc. On a un conflit entre impérialistes qui est classique, puisque les conflits entre l'impérialisme allemand et l'impérialisme états-unien sont vieux comme le 19e siècle. Jusqu'au moment, alors il y a toujours un moment où les États-Unis laissent faire, on laisse l'Allemagne avancer dans le champ de ses intérêts qui sont l'espace vital, l'avancée vers l'Est, les terres noires ukrainiennes, etc. Et puis il y a un moment où les États-Unis, oui, mais là, ils deviennent trop gros. Alors au moment où les États-Unis prennent conscience du fait que la puissance allemande devient trop grosse, à ce moment-là, la situation change et les États-Unis disent stop, c'est nous les plus forts des deux. Vous êtes forts, mais nous, les plus forts des deux, c'est nous. Hein. Donc, c'est nous qui décidons. C'est pour ça, et ce n'est pas pour autre chose, que les États-Unis ne sont rentrés dans la Deuxième Guerre mondiale que bien après la bataille, parce qu'ils étaient en train d'observer ce qui se passait. Et à un moment donné, ils se sont dit, effectivement, il ne faut pas que les nazis gagnent, parce qu'ils deviendront trop costauds. Et donc, il va falloir qu'on se mette, nous, à l'action. Alors, les Japonais les ont un peu aidés, mais les Japonais travaillaient avec les Allemands. Ils avaient la même politique du côté oriental. Et donc, c'est à ce moment-là que les États-Unis se décident. Parce qu'on dit toujours, alors on vous raconte, les États-Unis sont isolationnistes et tout. Ils ne sont pas isolationnistes du tout. Ils veulent dominer le monde. Mais quand les gens s'entretuent et qu'ils peuvent tirer les marrons du feu à après, ils ne vont pas aller risquer des vies américaines sur des sols étrangers. Mais au moment où on s'aperçoit qu'il y a un monsieur qui devient trop gros, l'Allemagne envahissant l'URSS et risquant de la détruire, le Japon essayant d'envahir aussi l'URSS et envahissant toute la zone pacifique, là, la puissance dominante dit « Attention, attention, on arrête de jouer, c'est moi le patron ». Et à ce moment-là, je rentre en guerre. Je rentre en guerre en 1942. La guerre est commencée depuis fin 1939. N'oublions jamais ça. Parce que ce n'est pas une surprise. On dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts américains. Bien sûr que tu fais 3 ans de guerre au lieu de 6, le résultat n'est pas le même à l'arrivée. Ouais. C'était une petite mise au point qui m'a paru nécessaire. Ensuite, la Corsair alliée, je vous en ai parlé. Qu'est-ce qui est intéressant à noter ? J'ai noté. Alors, je vais venir sur la Syrie parce que c'est très intéressant ce qui s'y passe. Le point de départ de la réflexion est une dépêche donc d'un militaire russe qui est basé donc dans la base russe de Emin. Donc c'est au nord de Latakia, sur la côte méditerranéenne de la Syrie, pas très loin d'ailleurs de la frontière turque. Hein. Et donc c'est à cet endroit-là qu'il y a l'état-major des forces russes qui sont installées sur le sol syrien. Et la semaine dernière, donc, ce monsieur, le porte-parole du commandement russe, fait état de circulation d'avions sur le sol syrien, à un endroit qui est à l'est, au sud-est du territoire, pour surveiller ce qui s'y passe. Des avions qui ne sont pas autorisés par la Syrie, évidemment, hein, puisqu'il s'agissait de F-16. Alors F-16, américain ou appartenant à une puissance qui en achète des F-16, bon, ça peut être des Américains, ça peut être des Anglais, pardon. Et puis 2 Rafales. Et là, j'allais dire, bon, ça n'a fait qu'un tour. Mais qu'est-ce que faisaient ces Rafales-là dans le sud-est de la Syrie et d'où venaient-ils ? Alors d'où des recherches ? Parce que autant à certaines périodes, le ministère de la Défense français était bavard sur l'État islamique en Syrie, le combat de la coalition et tout, autant là les nouvelles sont très très rares, voire inexistantes, et on sait pas, et on ne savait pas, et c'était pas clair de savoir d'où venaient ces 2 rafales. Bon. Alors, première question que je me suis posée, je me la repose devant vous, alors je regarde qui a des rafales, à part la France qui les fabrique, on le sait, dans la région. Et je trouve 2 pays qui en ont acheté. L'un, c'est le Qatar, et le deuxième, c'est les Émirats arabes unis. Alors, ça peut être eux, mais je me dis quand même, le Qatar. Et le Qatar, possible, et les Émirats arabes unis, et l'Égypte, et tout le monde, toute la Ligue arabe a ouvert les bras à réaccepter la Syrie, c'est et donc ça. Est sorti de l'état de guerre entre la Ligue arabe et les pays arabes et la Syrie. Donc, si jamais ça avait été des rafales, donc Qatari ou Émirati, c'était une trahison. C'est-à-dire que ces gens-là, d'un côté, il y a 3 mois, disaient, on embrasse M. Bachar el-Assad quand il vient chez nous, et on lui envoie des avions chez lui, en violation de l'espace aérien et de la souveraineté syrienne. C'était un peu gros, mais on ne sait jamais. Hein. Puis il peut y avoir peut-être dans ces régimes-là...
On sent bien qu'il y a un éloignement de la politique américaine,
tout à fait.
Israélienne.
Donc il ne restait, et c'est ce qui a été confirmé par d'autres observateurs que nous avons interrogés, il ne restait que l'hypothèse, il s'agit de 2 rafales français qui survolent le territoire syrien en violation de la souveraineté syrienne. Ah, alors, ça c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que aucun journal français n'en a parlé. Ça n'a fait l'objet d'aucun débat à l'Assemblée nationale, puisqu'on ne débat pas de ces questions-là à l'Assemblée nationale. Alors, je vais vous faire un petit peu l'histoire de ces avions, l'histoire telle qu'on peut la reconstituer. Alors, il manque peut-être des bouts et des morceaux dans la reconstitution du phénomène, mais enfin, voilà en gros où on en est. C'était en l'an de grâce de 2009, comme on dit au Moyen-Âge, un certain Nicolas Ier Sarkozy était président de la République française. Et il avait décidé, pour que la France puisse intervenir beaucoup dans cette zone-là du monde, de déménager la base militaire traditionnelle, enfin ancienne de la France à Djibouti, à l'entrée de la mer Rouge, de la déplacer dans les Émirats arabes unis. Alors il était au plus près, c'était intéressant du point de vue de la stratégie pétrolière. On mettait en avant aussi le terrorisme et la piraterie dans le golfe d'Aden, tout ça. Donc c'était mieux placé que Djibouti. Et en même temps, on a laissé le camp militaire français de Djibouti à l'armée des États-Unis, qui a trouvé ça très bien. Hein. Et donc on faisait d'une pierre deux coups. Et donc la France militaire s'installe en 2019 très puissamment dans les Émirats arabes unis et principalement à Abu Dhabi, puisque les Émirats, c'est plusieurs Émirats. Et il y a un Émirat qui est plus important que les autres, celui d'Abu Dhabi. Hein, les autres, c'est Dubaï, Sharjah, etc. Pourquoi c'est le plus important ? C'est lui qui a l'argent, c'est lui qui a le pétrole. Hein. Les autres dépensent l'argent, mais lui, il le gagne. Bon, et donc, c'est le plus puissant. Et il est conscient politiquement de cette puissance et il s'en sert. Et donc la France a installé à Abu Dhabi une base militaire complète avec une base maritime, c'est-à-dire il y a un port qui s'appelle Port Zayeb, il y a une base aérienne et il y a une base pour les troupes au sol, pour les troupes, l'artillerie, l'infanterie, etc. Alors tout ça est mélangé sous des aspects formation de personnel au matériel français, entretien, formation des cadres, des soldats, etc. Mais ça veut dire qu'il y a une présence militaire permanente depuis 2009 de la France dans les Émirats arabes.
Ce qui est marrant, c'est que tout le monde se bat contre le terrorisme, contre...
Voilà.
C'est incroyable et on n'a pas pu... décimer complètement le terrorisme, la grande puissance américaine, les Français, les Anglais, tout le monde.
Tout le monde.
Et puis finalement, tout le monde dit, nous, on se bat contre le terrorisme. En réalité, on renforce le terrorisme, voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de cette présence-là ? Eh bien, il se passe des occasions, dont une occasion qui est la guerre contre la Syrie. La guerre contre la Syrie n'est pas commencée, on est en 2009, je rappelle, mais elle est en préparation. Ça, on le sait, pour les gens qui savent, elle est en préparation, et Sarkozy le sait mieux que d'autres, certainement, vu ses liens avec les services des États-Unis. Bon. Donc, en 2011, la crise, la guerre interne de la Syrie commence. Et puis donc, il démarre, pas tout de suite, mais l'arrivée, donc, le démarrage de l'État islamique, le califat, vous savez tout ça. Et à ce moment-là, on est en 2014-2015, on passe à la création de ce qu'on appelait la coalition. Alors, vous lisiez la presse occidentale ou française à l'époque, la coalition a décidé de... Mais c'est quoi cette coalition ? D'où elle sort ? C'est un accord qui a été signé par qui et par quand ? On ne savait pas. Ben, c'était des diplomates et des gouvernements occidentaux qui s'étaient rassemblés pour dire on va regrouper nos moyens pour détruire l'État islamique. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire ? Alors, il faut bien situer ça dans la tentative de démolition de la Syrie. Il fallait à l'époque trier entre les bons terroristes et les mauvais terroristes. Alors les mauvais terroristes, c'était l'État islamique, puisque l'État islamique proclamait le califat, il voulait tous les pouvoirs, à la limite, comme les talibans en Afghanistan. On veut être, c'est nous les patrons et on veut personne d'autre. Bon. Et ça, alors avec l'expérience de l'Afghanistan, ça faisait quand même réfléchir. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce genre d'oiseau quand il est installé au pouvoir ? Et avec les méthodes qu'on lui connaît. Bon. Et donc, on a fabriqué, on a suscité, on a favorisé l'émergence de djihadistes, de terroristes modérés. Ça, c'était très bien. Alors, on les finançait, on leur aidait, etc. Mais il y avait un camp, et donc la coalition était destinée à casser les terroristes non modérés, les extrémistes, pour que les autres puissent continuer à faire leur travail consistant à dépecer progressivement l'État syrien de son territoire, de ses richesses. Ça, c'était l'objectif, c'était très clair, puisqu'il fallait que la Syrie... Enfin, si même on n'arrivait pas à tout prendre, il aurait peut-être resté, je ne sais pas, Tartous, Latakié, Damas, ouais. Mais prendre le maximum du trésor syrien, et surtout de ce qu'il représente en termes stratégiques de position sur la carte.
Au nord de la Syrie.
Voilà. C'est ça qui s'est passé. Donc la coalition démarre, et en 2015, notre bon François Hollande dit « j'y vais ». Allons-y, je suis parti dans la coalition et allons-y, et mort aux extrémistes. Alors, je rappelle que c'est dans le même gouvernement de M. Hollande qu'un certain Laurent Fabius dit que Al-Nosra fait du bon boulot. C'est-à-dire, d'un côté, on a des rafales qui vont bombarder l'émiral Daesh, mais de l'autre côté, on a les terroristes, les bons, les terroristes modérés qu'on soutient. On a donc le paysage est parfaitement clair. C'était ça, la coalition. Donc, coalition contre les terroristes non maîtrisables, et pour soutenir les terroristes maîtrisables, puisque le but était toujours et resté jusqu'à la fin, si même il a été vraiment abandonné, je ne sais pas, mais verbalement il n'a pas été, faire tomber le gouvernement de Bachar el-Assad. Donc voilà les opérations. Alors là, on a des chiffres, là, que j'ai retrouvés, des milliers de missions de l'armée française, de l'armée de l'air française, sur le territoire syrien. Je ne dis pas des dizaines, des milliers de missions, des milliers d'heures de vol, avec d'abord des mirages et ensuite des rafales. Ça, il faut le souvenir, parce que ça a été classé dans les OPEX, qui est les opérations extérieures, dont un compte-rendu est fait modérément chaque année au Parlement, ça n'est pas très loin. Mais on sait que c'est des milliers d'opérations. On a même vu des reporters aller sur la base française qui servait à ces opérations-là, mais dont tout le personnel français était flouté. Parce que donc il y avait un accord pour qu'on les montre en train de détruire les terroristes islamistes, mais il ne fallait pas qu'on voit leur tête quand même, c'était un peu dangereux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé que quand il s'agissait de venir bombarder la Syrie, envoyer un rafale depuis les Émirats Arabes Unis, fallait traverser toute l'Arabie Saoudite, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup de kérosène, ça faisait des ravitaillements en vol pour le retour, ça coûtait une fortune. Hein. Donc, il y a eu un accord. Alors, là, j'ai un doute dans mes recherches, je ne suis pas absolument sûr de la réalité. Deux possibilités. Un accord pour utiliser une base des États-Unis qui est installée directement sur le territoire de la République arabe syrienne, la base Al-Tanf,
ouais.
Ou une autre base qui serait sur le territoire jordanien, juste de l'autre côté de la frontière, à 5 minutes à pied, qui serait sur le territoire jordanien et qui ne serait pas chez les États-Unis. Alors c'est probablement la deuxième situation, et ça s'appelait DAB, donc ça voulait dire des bases aériennes projetées. Base.
Ouais.
Alors, elle a été projetée, et puis elle a toujours été projetée, et je pense qu'elle n'est jamais rentrée dans les faits, mais elle a existé en tant que telle, et donc vous pouvez trouver des informations dans la presse de 2019-2020 disant que des avions français, des Rafales, sont partis de la base DAB, et le reportage que j'ai vu, dont je vous parle, là, qui a été, où les personnages, les militaires français ont été floutés, effectivement, parle bien de cette base-là. Donc, il s'agissait d'une base avancée, beaucoup plus proche du territoire syrien que l'État major qui était resté à Abu Dhabi, mais il s'agissait bien de la même chose, c'est-à-dire des suites de l'implantation permanente française dans ces régions-là pour y faire régner son ordre à elle.
La base principale, c'est le Tanaf.
Hein?
Après, il y a des petites bases.
Après, il y en a d'autres.
Les Anglais, les
Tout
Français,
à fait.
Voilà,
Tout à
ils
fait.
Sont un petit peu... Voilà.
Donc, les deux, il est très probable que les deux rafales qui ont survolé la semaine dernière la Syrie venaient de cette base temporaire ou d'une autre, ou peut-être d'une base américaine, c'est pas exclu et tout. Mais ceci, ça devient délicat parce que la Jordanie, comme les autres pays arabes, a décidé de ne plus soutenir les terroristes opérant sur le sol syrien. Et donc, c'est une opération que je pense on n'a pas apprécié, dont on n'a pas apprécié la publicité dans les réseaux d'information parce qu'elle dérange un peu la politique française.
Hein.
Alors ce sont que deux rafales parmi d'autres, mais enfin, ils sont là, dans une région où la France n'est pas en conflit, on n'a rien annoncé. Alors les risques sont faibles, il y a un risque pécunier puisqu'il y a des heures de vol et des avions qui s'usent, les risques militaires sont extrêmement faibles puisqu'il s'agit en fait, et ça a d'ailleurs été critiqué, je le cite, par un général français qui a dit s'attaquer au terrorisme avec juste des bombardiers en tirant des missiles dessus, ça va pas bien loin. Ça va pas bien loin parce que on les a identifiés, les forces spéciales, ils sont là, on tire dessus, on tire dessus, on les attrape, on les attrape pas. Et en fait, quand on n'a pas la maîtrise du sol, on ne maîtrise pas un terroriste. C'est tout. Et donc le général français qui avait écrit ça et qui l'avait écrit dans une revue qui est certifiée conforme, qui s'appelle la Revue de la Défense Nationale, a été grondé par l'état-major et son article a été retiré des archives, mais on a un peu le retrouvé. Il avait dit, effectivement, là on gaspille un argent énorme, on se fait plaisir, et en fait la lutte contre le terrorisme par des bombardements, ça sert à rien. Hein. Et puis il aurait dû dire, réfléchissez à l'Afghanistan, hein. Vous voyez que ça sert à rien. Bon. On en est là. Donc la France est encore impliquée pour encore un certain temps. Elle ne va pas s'en vanter. Et ça, c'était intéressant qu'on le rappelle. Et puis, puisqu'on en est dans les bases étrangères, là j'ai parlé de la base américaine de Al-Tanf, qui est juste donc à la frontière jordanienne dans le sud-est de la Syrie. Mais il y a beaucoup d'autres bases américaines.
Oui.
Alors pas françaises, là où il n'y a pas d'avion français et tout, des bases américaines où là, l'armée des États-Unis, alors on compte aujourd'hui qu'il y a à peu près un millier de l'homme de l'US Army qui sont sur le terrain. Là, ils sont sur le terrain. Alors, ils sont là pour conseiller, pour donner des renseignements, pour regarder ce qui se passe, etc. Voilà. Mais surtout, donc, pour soutenir, effectivement, les rebelles présentables, les rebelles, j'allais dire démocratiques, je ne veux pas dire ça. Les rebelles de façade. Ah. Et surtout, pour protéger les richesses qui se sont
On vole les richesses.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pris sur ce territoire? Alors, ils occupent d'abord le territoire qui était le grenier à blé de la Syrie.
Ouais.
Donc, autant que les Syriens ne mangeront pas, jusqu'à nouvel ordre. Ouais. Et ils occupent les zones pétrolières d'extraction du pétrole et du gaz de la Syrie du nord-est.
D'ailleurs, je dis que je remercie la Russie, puisqu'elle fournit du blé à la Syrie.
Voilà.
Mais sinon, avant, les Syriens, ils vendaient le blé à l'excès.
Bien sûr.
Un excès.
Tout à fait. Oui, c'était une belle, une très belle terre appelée dans le Proche-Orient, dans l'Asie de l'Ouest, comme on dit maintenant. Ouais. Bon. Et puis, il faut savoir que la politique pétrolière du régime syrien, c'était une politique très économe. Ça consistait à dire, on a le pétrole pour nos besoins propres, on ne se met pas sur le marché d'exportation, nos réserves ne sont pas considérables, on ne va pas rentrer en concurrence avec l'Irak, le Koweït, etc. Ouais. Mais on a le pétrole dont on a besoin. Et c'était exactement ça. Et effectivement, à partir du moment où vous avez des bases américaines et puis des rebelles très modérés qui sont là pour vous empêcher d'arriver chez vous, eh bien, le pétrole, il est volé. Alors, il est tellement volé que, souvenez-vous, un certain Donald Trump, il y a quelques années, a dit « Ah oui, effectivement, il y a des troupes des États-Unis sur le sol syrien, c'est pour protéger les installations pétrolières de notre compagnie pétrolière. Ouais, » C'est une des compagnies pétrolières qui exploite, qui extrait ce pétrole et qui a même installé une petite raffinerie. Et alors là-dessus, c'est assez cocasse. Biden, quand il est arrivé au pouvoir, a dit « Mais on va arrêter ça. C'est pas présentable, ça fait pas propre, etc. » Et en fait, il a rien changé.
Il a rien fait. C'est-à-dire que
le vol du pétrole syrien continue. Et donc, les bases militaires des États-Unis sont toujours dans le nord-est de la Syrie. Mais c'est là que la situation évolue. C'est là que la situation évolue parce qu'elle est intéressante et il faut la mettre en image à ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui sur le sol syrien, face à face, dans une guerre non déclarée, l'armée russe et l'armée des États-Unis. Alors l'armée russe, alors dans deux situations politiquement totalement différentes, l'armée russe invitée par son allié, la Syrie, allié historique, invitée à la défendre, et de l'autre côté, un monsieur qui s'est installé et qui a dit, ben voilà, je prends le contrôle. Donc c'est un acte, alors ce qui se passe là, c'est un acte d'agression, c'est-à-dire c'est l'invasion d'un territoire appartenant à une puissance étrangère, sans avoir évidemment son accord, et pour la voler. C'est de la piraterie internationale. Voilà la situation. L'intérêt, c'est que, par rapport à la situation ukrainienne, c'est qu'on a une situation, pas inversée, mais très différente, mais qu'en fait, on a là ce qui se passe là aujourd'hui en Ukraine, parce que là, on a officiellement le gouvernement de Zelensky avec des aides, etc., et la Russie. Là, en Syrie, aujourd'hui, il y a une guerre frontale entre la Russie et les États-Unis. Entre les deux armées qui sont face à face et qui s'observent et qui se connaissent. Ça, c'est très, très important pour la compréhension des opérations militaires en Ukraine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'en fait, depuis 2015, en gros, ça fait maintenant 7 ans, 8 ans même, ça fait 8 ans que l'armée russe essaye de comprendre et apprend comment fonctionne l'armée des États-Unis. Avec les moyens qu'elle a. Alors, ce n'est pas énorme, il y a un millier de soldats, mais d'énormes moyens matériels, des camions, des avions, etc., beaucoup d'argent, etc. Et donc, en fait, on a eu une espèce de préparation, j'allais dire, à l'affrontement ukrainien, c'est-à-dire que la Russie, je pense, en 2015, n'aurait pas été en capacité de soutenir le conflit ukrainien parce qu'il ne savait pas trop comment s'y prendre. Et maintenant, avec l'expérience acquise sur le terrain syrien, elle sait comment travaille l'adversaire. Et qui préfère effectivement les gros bombardements, pas mettre beaucoup de soldats au sol, etc. La Russie en a tiré tous les enseignements qu'il était possible pendant cette période.
Je pense que la Russie, encore, elle n'a pas utilisé complètement son matériel moderne.
Non.
C'est vraiment. Bon.
Non, tout à fait.
Vieux matériel, des trucs comme ça.
Il y a les deux, mais en fait, je pense qu'au niveau, par exemple, au niveau de ce qui est ce qu'on appelle la guerre électronique d'un mot très général, là, ils ont beaucoup appris. Ils ont beaucoup appris. Et donc là, c'est un élément. Alors, c'est ce que j'ai dit un autre jour, c'est-à-dire que la guerre d'Ukraine, c'est à la fois 14-18, parce qu'il y a des tranchées. Et puis en même temps, la guerre électronique, c'est la guerre de demain. C'est la guerre d'Elon Musk, c'est autre chose. Bon. Et tout ça se mélange. Mais en fait, la maîtrise de ces techniques donc, de guerre électronique a été acquise sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a affaire non pas à une armée russe qui débouche c'est pas gentil, une armée russe qui est maintenant capable, qui sait comment ça fonctionne et qui s'est préparée à cette opération. Et la Syrie aura servi, hélas pour les Syriens qui sont morts dans l'opération, la Syrie aura servi de champ d'expérience. Mais ce que la Russie a compris, et elle le dit maintenant, et Poutine l'a redit ces derniers jours, c'est que de toute façon, contrairement à ce que dit Madame Timoshenko, il n'y a pas de moment à négocier. Ça ne sert à rien de négocier. Avec ces gens-là, on ne peut pas négocier. Et je vais vous rapporter un propos de la vice-présidente de la République populaire démocratique de Corée. Vous savez qu'il y a des tensions sur la Corée, parce que la Corée poursuit son armement nucléaire, ses essais de missiles balistiques. Et les États-Unis leur reprochent de ne pas vouloir négocier. Alors là, on a une réponse écrite, circonstanciée en anglais, donc de la République populaire démocratique, populaire. Disant, attendez, vous nous parlez de dénucléarisation. Alors si on dénucléarise, parce que c'est un mot que vous n'entendez pas, nous on arrête notre armement atomique, et vous, vous enlevez le vôtre qu'il y a en Corée du Sud, au Japon, et à Hiroshima, voilà. etc. Oui, oui. Et les autres répondent, non, on va simplement arrêter les manœuvres militaires avec les Sud-Coréens. À quoi la République de Corée dit, vous moquez de nous, vous arrêtez les manœuvres, hein, et dans 6 mois vous les recommencez, hein, c'est pas sérieux du tout, on c'est négociera pas, il n'y a rien à négocier avec vous, c'est tout. Hein, où on négocie sur la dénucléarisation des deux côtés, ce qui est l'intérêt du peuple coréen pour son grand avenir, hein, ou bien on ne veut pas négocier avec vous, vous n'êtes pas des négociateurs sérieux. Ça les embête beaucoup parce qu'ils aiment bien dire on a proposé des négociations. Et là, ils ont été ridicules parce qu'ils ont proposé que arrêter les manœuvres militaires. Et la Corée a répondu, vous arrêtez, dans 6 mois, vous recommencez. Bon, on ne perd pas son temps, on ne perd pas notre temps avec vous. Ça ramène à une autre affaire dont on a déjà parlé, c'est que c'est exactement ce qui ne s'est pas passé en Libye. C'est-à-dire, souvenez-vous, remontons l'histoire de la Libye avant 2011. La Libye avait décidé d'être, j'allais dire, d'adoucir le ton, de ralentir son effort, de trouver de meilleures relations avec les pays occidentaux et tout. Et donc elle avait renoncé à son programme d'armement biologique, à son programme d'armement nucléaire. Elle avait renoncé en partie à ses projets donc, de monnaie africaine, etc.
Mais c'était quand même une idée. Hein.
Oui,
c'était
oui, ah non, mais ils avaient envie. Idée,
parce que regardez maintenant ce qui se passe voilà. avec les BRICS.
Et... Tout à fait. Ouais. Et effectivement, je me souviens, et j'ai eu l'occasion déjà de le dire, quand la Libye, Kadhafi, a décidé d'arrêter son programme d'armement nucléaire, les Coréens du Nord lui ont écrit en disant « Tu as tort, tu en mourras.
Ah » ouais.
Tu en mourras. Et il en est mort. Et à propos de la Libye, je ne pouvais pas ne pas vous parler d'un document extraordinaire qui a été publié, sur lequel je ne m'étais pas attardé récemment. Il s'agit d'un livre, les mémoires d'un ex-dirigeant de la DGSE, donc les services de renseignement français, qui s'appelle Jean-François L'Huillier. Et donc son livre s'appelle « L'homme de Tripoli, mémoire d'agent secret ». Ça a été publié chez un petit éditeur qui s'appelle Mareuil. Qu'est-ce qu'il écrit ce monsieur ? Alors ça a été publié au printemps de cette année, je crois que c'est au mois de mai que ça a été publié. Eh bien ce monsieur dit, voilà, ce que j'ai vu, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors ce qui s'est passé, vous l'avez vu, la guerre, etc., la campagne, les bombardements, l'assassinat de Kadhafi. Et il dit, moi qui étais chef des services de renseignement français à l'époque, qui était sur place ou qui y allait souvent parce qu'on savait que c'était tendu, on ne m'a rien dit de ce qui se préparait. On ne m'a rien expliqué. J'ai vu arriver ça tout d'un coup parce que ça s'est passé entre Sarkozy et quelques responsables, peut-être aux États-Unis, c'est tout. Donc le chef des services de renseignement français, M. Jean-François L'Huillier, lisez son livre, si vous allez le dire, « L'homme de Tripoli », dit « Les services officiels français ne savaient rien de ce qui se préparait ». Et il dit, ça n'aurait pas dû se passer comme ça du tout. Il dit, il y avait effectivement une petite rébellion à l'Est, mais ce n'est pas du tout la proportion qu'on lui a donnée. Il dit, moi je savais qu'il y avait des gens du Qatar et des Émirats Arabes Unis, tiens, qui étaient derrière cette rébellion. Donc on leur avait ouvert la porte pour que fasse tomber le régime de Kadhafi. Je savais tout ça. On ne m'a rien expliqué. Les diplomates français ne savaient rien. Hein, et l'opération est allée jusqu'au bout. Et il dit, il y a un moment, il dit que ça a été une catastrophe. Voilà, alors, qu'est-ce que je vais vous lire ? Oui, alors, on lui dit dans la question, est-ce que les services n'ont pas fait profiter le gouvernement français de ce qu'ils savaient ? Ben, oui, on aurait bien voulu leur faire profiter, mais ils ne voulaient pas l'entendre, puisqu'ils avaient un autre projet dont ils ne nous avaient pas parlé. Et donc, ça a été une espèce de complot à l'intérieur de la République française, mené par l'équipe de Sarkozy. C'est ça ? Bon, et ça s'est passé dans l'indifférence à peu près totale de la représentation politique française. Hein. Donc on a un chef d'État qui a décidé une guerre, qui a décidé un assassinat. En plus, ça donne un peu les haut-le-cœurs, parce que quand on voit l'attitude de Nicolas Sarkozy accueillant Kadhafi à l'Élysée et sur les Champs-Élysées, le tenant dans ses bras, le caressant, c'est épouvantable, c'est abject.
Et lui dresser sa tente.
Oui, non, c'est abject alors que le projet était déjà prêt. Non, voilà. Donc c'était bien.
Mais il a fait exactement avec Bachar al-Assad aussi.
Oui, pareil, pareil.
Pareil. Pour le 14 juillet.
Tout à fait. Voilà. Alors je voulais signaler ce livre et puis donc bien expliquer comment notre belle République, avec ses représentations, son corps législatif, son corps judiciaire, etc., tout ça, il y a des complots possibles au sein de l'appareil d'État français. Dites-vous bien ça. C'est pas moi le complotiste, c'est eux les complotistes. Il y a un complot Sarkozy pour assassiner Kadhafi. Bon, ça c'est clair. Ben, il a eu lieu et c'est le chef des services secrets français qui l'est dit, qui l'écrit. Et à ce monsieur, il n'y a rien arrivé. Je pense qu'il ne lui arrivera rien, parce que c'est un monsieur respectable.
Mais derrière toute façon, ça, il y a le sionisme aussi. Ben,
bien sûr, en plus.
Ah oui, parce que bon, Kadhafi, il aidait beaucoup les
Palestiniens. Alors, dernière chose, on reste dans l'actualité, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va reparler des rafales. Ah bon ? Mais oui, on va reparler des rafales, parce qu'il y a ces deux rafales donc, qui survolent la Syrie, qui viennent donc, sont des rafales français, je confirme, qui viennent donc de la base BAF, donc dans le nord-ouest de la Jordanie. Et puis, il y a les rafales qu'est venu acheter M. Narendra Modi. Modi, pas M-A-U-D-I-T, hein, M. Modi, c'est le premier ministre indien.
C'est... Eh oui,
oui. Non, il n'est pas maudit pour tout le monde. Bon, alors, ce monsieur, ce premier ministre indien, donc, qui a été reçu en grande pompe à l'Élysée le 14 juillet, qui était dans la tribune d'honneur pendant le défilé, qui a pu entendre la population siffler le président Macron, mais ça ne lui a peut-être pas fait beaucoup d'émotions particulières. Bon, il était là, mais il était venu parce qu'il est venu acheter des rafales. Alors l'Inde avait déjà décidé d'en acheter, et puis là il en a acheté une série supplémentaire, je crois que c'est 26, c'est des Rafales. Alors vous savez que le Rafale a été équipé, il y a une version du Rafale qui est fait pour les porte-avions, pour les appontements et pour les décollages sur porte-avions. Et donc ils sont tellement d'ailleurs bien adaptés qu'ils ont à plusieurs reprises, on a fait, l'armée américaine a condescendu à ce que des Rafales français appontent sur des porte-avions US. Et ils savent le faire. Donc on est vraiment très très proche et on se comprend très bien. Et donc il est venu acheter 26 Rafales nouveaux pour mettre sur son porte-avions tout neuf, puisque le porte-avions indien, qui est le premier du genre, a été lancé au mois de septembre 2022. Donc ça fait partie de la politique de grandeur de M. Modi.
C'est pour
et de
cela
l'Inde.
Que Macron, il lui a caressé le dos, quoi.
Mais bien sûr, bien sûr, hein, parce que le Rafale vaut bien ça. Et alors, monsieur Modi est à Paris, il est bien reçu. Il a reçu donc la croix de grand chancelier de la Légion d'honneur, donc qui est le grade le plus élevé dans l'ordre de la République française. Bon, il n'est pas le seul des personnages pas très sympathiques à l'avoir eu, mais il l'a eu, donc c'est très bien. Et il faut savoir que sa carrière, quand même, n'est pas la carrière d'un grand démocrate. Monsieur Modi est à la tête d'un parti qu'on appelle le BJP, qui est un parti musulman, hindouiste, pardon, fondamental, anti-musulman, qui s'est signalé quand il était gouverneur du Gujarat, qui est une des provinces donc, de la Fédération indienne, par des attentats organisés contre la population musulmane, qui ont fait 2000 morts, avec toute une série de ricochets, fait, de réponses de la population tout alentour. Et Amnesty International, qui de temps en temps dit des choses intéressantes, bon, ça dépend, mais à l'occasion de la visite, et donc de la visite triomphale de M. Modi à Paris la semaine dernière, a dit que le symbole de la visite de M. Modi comme non-démocrate, anti-musulman, terroriste à 16 heures, terroriste d'État, était un symbole tragique. C'est ce que dit Amnesty International, et je reprends tout à fait ça à mon compte. Hein. C'est un symbole tragique, parce qu'effectivement, vous pouvez donc susciter des émeutes anti-religieuses, anti-musulmanes, etc. Et on vous traite comme il a été traité. Bon. Et tout ça m'amène à vous parler donc de cette Inde, donc qui est une, alors cette Inde qui est ambiguë au dernier degré, hein, puisqu'elle est à la fois dans les BRICS, mais les BRICS c'est pas une alliance politique, c'est une alliance économique. On échange, on fait des projets communs et tout. Donc les BRICS, on peut pas attendre un comportement, un positionnement politique de l'adhésion aux BRICS, c'est un peu particulier. Mais par contre, l'Inde passe son temps. Alors, c'est un peu Erdogan à la puissance 2, c'est-à-dire un coup à droite, un coup à gauche, un coup du côté de l'Ouest, un coup du côté de l'Est. Je ne me fâche pas avec les Russes, mais je suis quand même un peu en froid avec les Chinois, etc., etc. Et je passe mon temps là-dedans. Et puis, au niveau de la politique intérieure, il faut savoir que le gouvernement de M. Modi n'est pas très populaire et qu'il a en partie une bonne partie de la classe paysanne indienne contre lui, qu'il a mis à mal l'année dernière, puisqu'ils ont exigé donc le maintien de prix garantis aux productions céréalières de base, qu'ils ont fini par arracher. Alors que M. Modi n'était pas du tout prêt à lâcher là-dessus. Hein, parce que lui, c'était idéologiquement, c'est un libéral, et donc il ne voulait pas garantir les prix à la production pour les agriculteurs. L'agriculture indienne, c'est une agriculture paysanne classique, avec des petites exploitations et des millions de paysans. On n'est pas du tout dans une agriculture de grands champs. Voilà pour M. Modi et sa visite. Donc la France, là encore, est tombée. Enfin, voilà, on a vendu des arbres. Alors, ça fait même plus ricaner. Oui. Et voilà, on a vendu des avions. Alors Dassault est content. Alors, moi, je suis pas acheteur, mais je ne serai jamais acheteur. Mais je pense que le Rafale est un bon avion. Il n'y a pas de souci. Enfin, les gens qui l'ont acheté n'ont pas acheté de la camelote. Hein. Ni les Égyptiens, ni les Qataris, ni les...
Je crois qu'il n'y a pas les Égyptiens aussi qui l'ont acheté.
Donc, effectivement, les militaires de ces pays-là, quand ils choisissent un avion, ils ne veulent pas se faire vendre n'importe quoi. Donc, je pense que le Rafale est un bon avion. Bon, tant mieux pour la maison d'assaut. Hein. Ouais. Mais il faut savoir que ce genre de contrat, ce genre d'assaut ne se fait pas sans un coup de pression politique considérable. Là, il était considérable et ça valait bien donc la visite de M. Modi et la médaille de la Légion d'honneur. Et je voulais en profiter...
Bachar, il a eu aussi la médaille. Hein.
Oui, 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 et puisqu'il est venu une fois.
Il a voulu le remettre à la France, dernièrement. <C'est vrai. rire>
Je voulais vous présenter deux personnages par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez Al-Indien ? Alors, vous ne savez pas qui c'est Al-Indien. Alors, c'est Al-Indien. C'est l'amiral commandant la flotte française dans l'océan Indien. Vous ne saviez pas ça. Vous croyez que les amiraux, ils étaient à toujours à la presse. Non, il y a à Abu Dhabi, précisément à l'endroit dont je vous parlais tout à l'heure, un amiral français qui commande la flotte française dans l'océan Indien et qui est donc responsable de la zone qui va du canal de Suez jusqu'à l'Indonésie, jusqu'à l'Antarctique. C'est énorme. Bon, il y a un amiral français, ça s'appelle Al-Indien, comme, hein, qui est là en poste. Alors, bien sûr, il n'a que deux bateaux. Alors, par rapport aux flottes États-Unis, oui. Ça fait petit tout. Hein. Oui. Mais enfin, il y a quand même un monsieur qui porte le titre, en France, d'amiral de l'océan Indien. Hein. Bon, pourquoi ça ? Parce que la France a des colonies, hein, et donc l'Indien, c'est les îles Éparses dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est la Réunion. Hein. Mm. Et puis, c'est les terres françaises de l'Antarctique, donc les Kerguelen, la Terre Adélie, etc. Tout ça. Bon. Et puis, il y en a un autre, hein, je continue les présentations, il s'appelle M. Al Pacy. Alors, ce n'est pas Al Pacino, ce n'est pas un acteur américain, c'est l'amiral commandant le Pacifique. Alors, il y a un monsieur, alors qui lui est basé à Papeete, donc à Tahiti, et qui commande la flotte française du Pacifique. Alors, tenez-vous bien, il commande depuis Singapour jusqu'au Chili et à la Californie. Il est le maître du Pacifique. Fabuleux. Alors, je me mets dans la tête du petit Emmanuel. Quand on lui dit, on a un amiral français qui commande le Pacifique depuis Singapour, le détroit de Malaga, jusqu'à la Terre de Feu et au détroit de Bering, on peut avoir que du délire des grandeurs. Alors, bien entendu, quand vous regardez les effectifs, là aussi, il n'y a que deux bateaux. Bon, alors c'est tout petit, mais avec notre petit président qui joue aux petits soldats sur la planète, ça fait quand même deux bateaux. Et puis, il a son Al Pacy et son Al Indien. Il est content quand il s'endort. Il a bien joué avec ses soldats. Non, je ris, mais... Je ris parce qu'on a atteint des niveaux de pusillanimité extraordinaires. Mais je rappelle quand même que c'est l'argent de la République, c'est la République française, c'est ces 60, presque 70 millions d'habitants qui n'ont pas été préparés à être gouvernés par un petit garçon qui joue avec des soldats de plomb. Hein. Parce que ça pèse rien les deux bateaux de Al-Indien et les deux bateaux, ça pèse rien du tout. Ça ne sert qu'à lui gonfler la tête et à intervenir pompeusement dans des grands discours. Alors ce qui est grave, c'est que j'ai lu cette semaine dans la presse qui m'a amené à en parler, dans la presse professionnelle des... Marine française, ça existe, des interviews d'officiers supérieurs qui sont liés à ces commandements dont Al-Indien Al Pacy, qui croient totalement et fermement à cette politique-là. Bien sûr, parce qu'on leur a dit, vous êtes le commandant adjoint d'Al-Indien ou d'Al Pacy, c'est leur boulot. Mais enfin, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, ils s'en rendent un peu compte, parce que, et c'est là que je vais un petit peu conclure au moins là-dessus, c'est que si on enlève les territoires colonisés, vous savez ce qu'on appelle les zones économiques exclusives. Si on enlève le territoire de Al Pacy et de Al-Indien, on réduit la zone économique exclusive de la France et donc son empire maritime, dont elle se gargarise, de 80%. Il ne reste rien. Et le joueur de petit soldat, il est réduit à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire pas grand-chose.
Hein. Ils le savent, les Américains.
Mais bien entendu, parce que eux, quand nous, on a deux frégates, ils ont trois porte-avions et tout le reste, etc. Bon, alors, et ce n'est pas parce qu'on a quatre sous-marins nucléaires lance-engins qui se promènent que ça fait plus peur que ça. Donc, on a affaire à une espèce de délire de grandeur qui est très, très grave, parce qu'en même temps, et ça, on en est tous conscients, bien entendu. Tout cet argent, parce qu'il faut lancer ces deux bateaux qui font des ronds autour de Papeete, de Nouméa et de La Réunion, ça coûte de l'argent. Il y a des équipages qui sont payés, il y a des retours, il y a des munitions, etc. Bon, tout ça se fait dans le budget de la République, et c'est autant d'argent qui ne va pas ailleurs. Alors quand on vous dit, parce qu'on l'a dit aussi qu'il y a beaucoup d'argent qui se déverse dans les quartiers dits défavorisés, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Cet argent, il se perd là, dans ces opérations de prestige qui permettent à un monsieur d'avoir...
Ça coûte cher, ouais.
Mais oui, mais évidemment que ça coûte cher. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai encore 2 minutes? 2 minutes, 2 minutes.
Allez.
Alors je voulais juste rappeler qu'il se commémore, parce que ça ne se célèbre pas, ces jours-ci dans le stade de Santiago du Chili, les 50 ans du massacre du 11 septembre 1960. Voilà. Ouais. Alors il faut savoir que dans ce stade, effectivement, qui a été rénové, agrandi, parce qu'elle a l'image des compétitions de football qui sont extrêmement populaires, la tribune ancienne qui existait en 1973 a été conservée. Et donc, il y a eu une réunion là-dedans. Et puis, on a commémoré l'ensemble des gens qui ont été assassinés à cette occasion-là. Ça a été un camp de concentration dans un stade. Et il y a la mémoire existe de cet événement.
Je crois qu'il en parlait, le poète Neruda.
Neruda en a parlé, tout à fait. Ouais. Voilà. Dernière chose concernant l'Amérique latine. Si, quand même. Deux petites visites à Pékin, parce que les visites à Pékin, ça a toujours beaucoup de sens.
Ouais, beaucoup de,
alors, le président algérien est en visite pour 5 jours à Pékin. Donc ça veut dire, ça confirme, c'est la suite de la visite à Moscou. Et arrive à Pékin aussi, à la même période, une délégation du Front populaire de libération de la Palestine. Ce qui confirme que quand la Chine dit « moi, je soutiens les Palestiniens dans leurs revendications ».
C'est bien parti.
Voilà. Hein, quand Pékin le dit, Pékin le fait. Oui. Et c'est ça la grande différence qu'il va bien falloir qu'on comprenne, parce que les gens qui disent la Chine ceci, la Chine cela, ne comprennent pas que d'un côté on a des gens qui mentent, qui ne respectent pas leur signature, qui bombardent avant de discuter, et d'un autre côté des gens qui disent voilà mon projet, je ne bombarde personne, je discute et je défends des intérêts de ceux qui souffrent. Voilà.
Je crois que du côté, je vais parler, l'Algérie, elle avance vraiment.
Ah, beaucoup. Alors deux mots pour dire que la politique de Tebboune qui prend corps. Il faudra parler de la Tunisie la semaine prochaine. Ouais. La politique de Tebboune prend corps, puisqu'il dit qu'il faut que nous sortions de notre économie de rente. Ce n'est pas parce que nous sommes riches de notre pétrole et notre gaz qu'on doit se tourner les pouces à vendre notre pétrole et notre gaz. Il faut que nous ayons des productions agricoles, on a le sol qui s'y bat, que nous ayons des industries moyennes. Et il est en train de diversifier l'économie algérienne pour que l'économie soit à la taille de sa population et de sa main-d'œuvre. Il y a 40 millions d'Algériens à nourrir. Et ce n'est pas en regardant couler du gaz dans un tuyau qu'on nourrit 40 millions de personnes. Ça, il l'a compris et c'est tant mieux.
Ils ont organisé aussi, il ne faut pas oublier, le sport panarabe.
Tout à fait.
Et je sais pas si... Bon, on n'a rien vu à la télévision, il n'y a pas eu... Les médias n'en ont parlé du tout, mais c'était super bien organisé. Hein. J'ai regardé
donc
tout le long.
On parlera de la semaine prochaine, donc de la visite de Mme Ursula von der Leyen, de Mme Giorgia Meloni et M. Frank Rutte à Tunis pour que... Alors, la Tunisie remplace dans la chasse aux immigrants la Libye qui ne sait pas le faire puisque la Libye n'existe plus. Voilà. Alors, à quoi sert la Tunisie? La pauvre. Merci Roselyne et bonne semaine à tous.
Rose. Voilà.